VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Abdoulor Tankia au micro pour vous présenter cette édition du vendredi 12 août 2022. Voici les titres. Les Kenyans ne connaissent toujours pas le vainqueur de la présidentielle de mardi. Les médias ont suspendu la diffusion de leurs estimations. L'Allemagne suspend la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la MINUSMA après un nouveau refus de survol par Bamako. L'Éthiopie annonce avoir achevé la troisième phase du remplissage du réservoir de son barrage sur le Nil malgré les protestations du Soudan et de l'Égypte. Polémique sur la perquisition du domicile de l'ancien président américain Donald Trump, le ministère de la Justice veut que la confidentialité du mandat soit levée. Et puis Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques, a survécu à une attaque au couteau dans l'État de New York. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Kenya, les télévisions locales ont cessé de diffuser leurs estimations de résultats des élections de mardi. Cette interruption soulève des interrogations sur l'issue de ce scrutin alors que le dépouillement se poursuivait ce vendredi. Le point avec Eric Manirakiza.
Les chaînes de télévision kenyanes ont cessé de diffuser leurs décomptes évolutifs de résultats sans fournir d'explications pour cet arrêt impromptu. Elles avaient pourtant commencé dès le lendemain du scrutin à fournir en direct des résultats partiels, fluctuants et parfois contradictoires basés sur leurs propres décomptes. Ceci semblait conforter le scénario d'un duel serré entre deux des quatre candidats à la présidentielle, Raila Odinga, qui a reçu le soutien du président Kenyatta pour l'élection, et le vice-président sortant William Ruto. La commission électorale indépendante exhorte les Kenyans à la patience. Elle doit d'ici le 16 août annoncer les résultats définitifs de la présidentielle qui désigneront le successeur de Uhuru Kenyatta, président depuis 2013, et ceux de cinq autres scrutins concomitants, parlementaires et locaux notamment. Le dépouillement débuté mardi soir se poursuivait vendredi au niveau des circonscriptions, des comtés et au niveau national à Nairobi. Selon la commission électorale, le taux de participation s'élève à un peu plus de 65%, en baisse par rapport aux 78% recensés lors des élections d'août 2017.
En République démocratique du Congo, quatre policiers ont été tués ce vendredi alors qu'ils encadraient une manifestation contre l'insécurité. Des hommes armés mêlés à la foule ont surgi à hauteur du quartier Kangote à Butembo, dans le Nord Kivu, et ont tiré sur des policiers qui encadraient les manifestants, a expliqué le chef de l'armée à Butembo. Trois jeeps ont aussi été incendiés, a déclaré l'officier, dont les hommes sont venus à la rescousse de la police. Au Burkina Faso, l'armée va réorganiser ses unités combattantes. Objectif, récupérer les territoires perdus ces dernières années au profit des groupes djihadistes. Une réorganisation territoriale des unités est en cours dans le but de consolider le maillage territorial, a déclaré le ministre de la Défense, le général Barthélémy Simpouré, lors d'une conférence de presse. L'officier n'a pas divulgué les noms des zones concernées par ce nouveau maillage. Nous y reviendrons d'ailleurs en partie magazine. L'ancien président du Burkina Faso, qui par ailleurs donc, l'ancien président du Burkina a renversé en janvier, Roch Marc Christian Kabore a rencontré ce vendredi à Abidjan le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Cette rencontre privée s'est tenue au domicile du président Ouattara. Ni lui ni M. Kabore n'ont fait de déclaration selon une source proche de l'ancien président burkinabé. L'ex-président Kabore est arrivé hier soir à Abidjan en provenance de Ouagadougou et devait se rendre ensuite à Dubaï pour raisons médicales. L'Allemagne a annoncé ce vendredi suspendre jusqu'à nouvel ordre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali dans le cadre de la mission de l'ONU du fait, a-t-elle dit, d'un nouveau refus de survol par les autorités maliennes. Le point avec Rosine Munezero.
Le gouvernement malien a encore une fois refusé d'autoriser un vol prévu aujourd'hui qui devait assurer une rotation de personnel. En conséquence, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre nos opérations de reconnaissance et les vols de transport par hélicoptère, car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel, a expliqué un porte-parole du ministère allemand de la Défense. Le refus de survol est intervenu malgré des assurances contraires de la part du ministre malien de la Défense, Sadio Camara, lors d'un entretien téléphonique jeudi avec son homologue allemande, Christine Lambrecht, a ajouté le porte-parole. La décision allemande intervient alors que le Mali, qui a poussé vers la sortie le vieil allié français et relancé la coopération avec Moscou, fait depuis quelques semaines face à une résurgence d'attaques du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
La Gambie a subi les pires inondations en près d'un demi-siècle le mois dernier, faisant 11 morts et plus de 5000 déplacés. Ce bilan a été rendu public par l'Agence nationale de gestion des catastrophes naturelles. Les inondations à la suite de fortes précipitations les 30 et 31 juillet ont directement affecté au moins 40 000 personnes, dont plus de 8 000 enfants âgés de moins de 5 ans, toujours selon les autorités gambiennes. D'après le département des ressources hydriques, 276 mm de précipitations sont tombés en deux jours dans la capitale gambienne Banjul. L'Éthiopie a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès la troisième phase du remplissage du réservoir de son méga barrage sur le Nil Bleu. Cette annonce a été faite en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte, riverains en aval. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ce que vous voyez derrière moi, c'est le troisième remplissage terminé, a annoncé le premier ministre Abiy Ahmed dans un discours télévisé depuis le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, situé dans le nord-ouest du pays et présenté comme le plus grand d'Afrique. Le Nil est un cadeau que Dieu nous a offert pour que les Éthiopiens l'utilisent, a tenu à préciser le chef du gouvernement éthiopien, répondant implicitement aux critiques du Soudan et de l'Égypte. Les deux pays ont plusieurs fois demandé à l'Éthiopie de cesser ses opérations de remplissage, en attendant la conclusion d'un accord tripartite sur ce sujet et sur les modalités de fonctionnement du barrage. Tributaires du Nil, le Soudan et l'Égypte affirment que ce méga-barrage, d'une puissance annoncée de plus de 5000 MW à terme et une capacité de retenue de 74 milliards de mètres cubes, va nuire à leur approvisionnement en eau. L'Égypte a même protesté à la fin du mois de juillet auprès du Conseil de sécurité de l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Britannique Salman Rushdie, auteur de l'ouvrage controversé Les Versets sataniques, a été attaqué ce vendredi sur scène lors d'une conférence dans l'ouest de l'État de New York, selon plusieurs médias américains. Des images vidéo diffusées sur les réseaux sociaux montrent des spectateurs d'une salle de spectacle se précipiter sur scène pour porter secours à quelqu'un qu'on aperçoit au sol. Salman Rushdie est hospitalisé. L'ouvrage de Rushdie avait provoqué une série de manifestations dans les pays musulmans et conduit en 1989 à une fatwa de l'ayatollah Khomeini d'Iran. Restons ici aux États-Unis où la justice pourrait rendre public des documents judiciaires pour éclairer l'opinion sur les raisons de la perquisition sans précédent menée en début de semaine au domicile de l'ancien président Donald Trump. Le point avec Nani Talani.
Lors d'une conférence de presse, Merrick Garland a annoncé avoir demandé que le mandat de perquisition soit rendu public sans dévoiler les raisons ou les résultats de l'opération. Il a également dénoncé des attaques infondées des républicains contre le ministère de la Justice et le FBI. Le ministère ne prend pas ce genre de décision à la légère, a-t-il souligné, ajoutant qu'elle avait été validée par un juge fédéral. Le ministère de la Justice a mentionné, sans les contredire, les déclarations de représentants de M. Trump indiquant que le FBI recherchait des documents d'archives de la Maison-Blanche, peut-être classés secret défense. Selon le Washington Post jeudi soir, certains documents recherchés concernent les armes nucléaires. Cette perquisition sans précédent par le FBI chez un ancien président des États-Unis a eu lieu lundi dans la résidence de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. M. Trump a accusé les agents du FBI d'avoir fouillé les placards de sa femme Melania et cherché dans ses vêtements et ses effets personnels. Mercredi, il a même laissé entendre que le FBI aurait placé des preuves contre lui lors de cette opération. Jamais un ancien locataire de la Maison-Blanche n'avait été inquiété par la justice de cette façon.
Une interdiction de visa pour tous les Russes va être discutée fin août par l'Union européenne, annonce faite ce vendredi par le chef de la diplomatie tchèque Jan Lapsaky, dont le pays préside le Conseil de l'Union européenne. La mesure réclamée par les autorités ukrainiennes divise l'Union européenne. Les sanctions européennes doivent être adoptées à l'unanimité des 27. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco présentée ce soir par Nanit Kalani.
Des Congolais vivant avec handicap viennent de terminer leur formation à la culture des champignons à Brazzaville avec l'appui financier de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. La formation était principalement axée autour de la maîtrise de la technique artisanale de production des champignons pour faciliter l'insertion socio-économique et l'autonomisation des participants. La Banque ouest-africaine de développement veut créer un cadre favorable à l'investissement privé dans le secteur des énergies solaires avec un apport financier de 40 milliards de francs CFA sur un investissement total de près de 165 milliards de francs CFA à l'horizon 2030. Ce programme climat permettra d'éviter l'émission de 4,8 millions de tonnes de CO2 équivalent au Bénin, au Burkina, en Guinée, au Mali, au Niger et au Togo. Pour terminer, aux États-Unis, les prix à l'importation ont diminué plus que prévu en juillet, principalement en raison de la baisse des coûts des carburants et des produits non pétroliers, annonce ce vendredi le département du travail. Les prix à l'importation ont chuté de 1,4% contre une hausse de 0,3% en juin. Les prix des carburants importés ont chuté de 7,5% après avoir bondi de 6,2% en juin. Ceux du pétrole ont diminué de 6,8%, tandis que les coûts des aliments importés a baissé de 0,9%. C'est la plus forte baisse sur un mois depuis novembre 2020.
Présent la page des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On commence par les joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur de l'UEFA. Aucun Africain parmi les trois nominés.
Oui, on pense notamment au Sénégalais Sadio Mané ou à l'Égyptien Mohamed Salah en raison de leur performance l'année dernière. Mais ils ne sont pas sur la liste. Par contre, deux joueurs du Real Madrid, Karim Benzema et Thibaut Courtois, sont nominés, ainsi que Kevin De Bruyne de Manchester City pour le prix du meilleur joueur UEFA de l'année. Cette distinction qui récompense le meilleur joueur évoluant sur le continent, quelle que soit sa nationalité, sera décernée le 25 août lors du tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Artisan principal du 14e sacre du Real en Ligue des Champions et meilleur buteur de la compétition avec 15 buts, Benzema fait figure de grand favori pour succéder au palmarès à l'Italien Jorginho. En 2021-2022, le Français a inscrit 44 buts en 46 matchs avec le club madrilène, remportant également le championnat d'Espagne.
En Liga, le FC Barcelone vend 24,5% supplémentaire de Barça Studio pour 100 millions d'euros.
Oui, après avoir annoncé le 1er août la vente de 24,5% des parts de Barça Studios à la plateforme Socios.com pour 100 millions d'euros, le FC Barcelone a indiqué aujourd'hui avoir cédé 24,5% supplémentaire de la filiale à la société Orpheus Media dirigée par Jom Roures pour 100 autres millions d'euros.
La FIFA qui confirme que le Mondial 2022 commencera bien un jour plus tôt.
Oui, le bureau du conseil de la FIFA a entériné sur une décision unanime l'avancement d'une journée du match d'ouverture du Mondial 2022 au Qatar. En conséquence, le match entre le pays organisateur de la compétition et l'Équateur, initialement programmé le 21 novembre, aura donc lieu le 20 novembre à 19h heure locale au stade Albert d'Alcor au nord de Doha, tandis que la rencontre opposant le Sénégal aux Pays-Bas, initialement prevue à 13h heure locale le lundi 21 novembre, a été décalée à 19h le même jour.
On termine par la NBA, le championnat de basketball américain, le numéro 6 porté par Bill Russell, bientôt retiré.
Oui, la légende de la NBA et militant des droits civiques est décédé fin juillet. Le numéro 6 qu'il portait sera retiré de façon permanente dans toutes les salles des franchises à partir de la saison prochaine, a annoncé jeudi la Ligue nord-américaine de basket. pour la première fois, un numéro de maillot sera définitivement retiré dans toute la NBA, ce qui veut aussi dire qu'il ne sera plus jamais attribué à aucun autre joueur. Ceux qui le portent déjà, comme LeBron James, pourront toutefois le conserver.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Les télévisions kenyanes ont arrêté de diffuser leurs estimations de résultats des élections de mardi, ce qui soulève des interrogations sur l'issue de ce scrutin à fort enjeu, alors que le dépouillement se poursuivait ce vendredi. Aucune explication n'a été fournie au public pour cet arrêt impromptu survenu au moment même où la commission électorale indépendante exhortait les Kenyans à la patience. Pour en savoir davantage, Eric Manirakiza a joint à Nairobi notre collègue du service Swahili et l'un des envoyés spéciaux de la Voix de l'Amérique au Kenya, Abdou Shakur Aboud.
La raison pour laquelle les télévisions ne diffusent plus les résultats, c'est que la Commission nationale pour les élections, AIBC, ils ont dit que les médias ne sont pas synchronisés. Alors, ils étaient en train de donner des résultats différents et ça créait des confusions au peuple parce que chaque station de télévision donnait des totalement différents. Alors, il y avait une confusion totale et la commission n'avait pas commencé à donner ces informations parce que eux, ils attendent les chiffres qui viennent dans des différents centres des élections et ils n'ont pas eu ça tous. Alors, ils ne pouvaient pas annoncer. Alors, les médias n'étaient pas synchronisés et c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté eux-mêmes.
Et cette interruption n'a pas créé de mauvais climat au niveau des électeurs ou des Kenyans?
Non, ça a créé encore plus de confusion parce que tout le monde maintenant se demande qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe parce que hier, la commission a commencé à annoncer et brusquement dans la nuit, ils ont arrêté et ils ont recommencé aujourd'hui et maintenant on se demande qu'est-ce qui se passe. Et ils donnent les nombres petit à petit, ils ne donnent pas les informations à la fois sans problème, mais eux, ils donnent les informations goutte par goutte et ça, ça crée une confusion et ça, il y a beaucoup de rumeurs que peut-être ils sont en train de manipuler les résultats, peut-être il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelques heures là, la commission a dit qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'on est en train de vérifier. Il faut vérifier les informations qu'ils ont eues sur l'Internet avec les papiers de vote qui doivent venir à partir des bureaux de vote. Alors, ils n'ont pas reçu tout ça. Ils doivent recevoir 280 papiers de bureaux de vote. Ils ont reçu jusqu'à maintenant à peu près une centaine. Alors, il manque encore 180 bulletins qu'ils doivent recevoir. Et c'est à cause de ça qu'ils ont arrêté jusqu'à ce qu'ils vérifient tous les résultats avant d'annoncer.
Dans une situation de confusion comme celle-là, le rôle des principaux candidats est primordial pour calmer les esprits. Est-ce que Raila Odinga ou William Ruto auraient communiqué pour tranquilliser leurs électeurs respectifs?
Non, jusqu'à maintenant, personne n'a parlé avec le peuple, ni Ruto, ni Odinga. Et on pense que c'est une bonne initiative pour ne pas créer encore de confusion, d'après les informations que j'ai eues des gens trop proches de les deux partis. Alors là, ils attendent que les choses évoluent calmement comme maintenant. En réalité, les Kenyans sont calmes. Ils attendent que les résultats soient annoncés bientôt. D'ici demain, on espère avoir des résultats finaux de la partie de Commission nationale de l'élection.
C'était Abdou Shakur Aboud, notre collègue du service Swahili et l'un des envoyés spéciaux de la Voix de l'Amérique à Nairobi. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a bouclé hier jeudi sa tournée africaine par le Rwanda. À chaque étape, M. Blinken a souligné que les États-Unis recherchent un véritable partenariat avec les pays africains. Il a précisé que Washington veut soutenir les efforts régionaux visant à réduire la violence et n'entend surtout pas dicter aux nations africaines avec qui elles doivent s'associer. Le reportage de Cindy Sen de la VOA et la narration est de Jean-Roger Bion.
À Kigali, troisième et dernière étape de son périple sur le continent, le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est entretenu jeudi avec le président rwandais Paul Kagame. Il a déclaré aux journalistes avoir abordé de sérieuses préoccupations concernant les droits de l'homme au Rwanda et demandé la fin de tout soutien aux rebelles armés en RDC.
Il y a des rapports très crédibles de soutien aux groupes armés par toutes les parties, y compris les FDLR, par les forces congolaises et le M23, par les Rwandais. Notre position est claire, qui que ce soit, pour qui que ce soit, tout soutien doit cesser pour tout groupe armé.
Avant Kigali, le chef de la diplomatie américaine était la veille à Kinshasa, la capitale de la RDC. M. Blinken y a exprimé ses mêmes préoccupations concernant le soutien apporté par le Rwanda au M23, groupe rebelle armé opérant dans l'est de la RDC. Christophe Lutundula est le ministre congolais des Affaires étrangères.
À celui de l'est de notre pays, en proie avec les groupes armés, terroristes qui sèment la terreur décident nos populations depuis plus de 20 ans.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken a commencé sa tournée africaine dimanche dernier en Afrique du Sud en rendant hommage au soulèvement de Soweto, une manifestation d'étudiants contre l'ancien régime d'apartheid. Monsieur Blinken et son homologue sud-africain Naledi Pandor ont tous deux déclaré avoir eu des entretiens substantiels et honnêtes, axés sur des objectifs et des intérêts communs. En abordant la question de la concurrence pour l'influence sur le continent avec la Chine et la Russie, Monsieur Blinken a mis en perspective le thème principal du voyage.
Ce que nous recherchons avant tout, c'est un véritable partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Nous ne voulons pas d'une relation déséquilibrée ou transactionnelle. Et notre engagement en faveur d'un partenariat renforcé avec l'Afrique ne consiste pas à essayer de surpasser qui que ce soit.
La visite de M. Blinken fait suite à une tournée en Afrique du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et une experte a déclaré à VOA qu'elle n'était pas sûre que les Africains soient convaincus que les États-Unis ne rivalisent pas encore pour leur influence sur le continent. Elizabeth Shackelford est du Chicago Council on Global Affairs.
Je pense qu'on a encore l'impression que tout ça fait partie d'un grand jeu de compétition entre grandes puissances et qu'il y a un peu la peur de manquer quelque chose si nous ne sommes pas là, que nous avons peur d'être absents à des endroits où la Russie et la Chine mettent le paquet.
Un autre expert a déclaré à VOA qu'il voyait un changement de ton et d'approche sur l'Afrique de la part de l'administration Biden. Tom Shee est de l'Institut américain pour la paix.
Je pense que la différence ici, cependant, est peut-être que par rapport à l'administration précédente, l'administration Biden n'est pas tellement intéressée à dire aux Africains comment ils doivent gérer leurs affaires, avec qui ils doivent nouer des partenariats. Le message de l'administration précédente sur la Chine était plutôt clair.
Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déjà visité le Kenya, le Nigeria et le Sénégal en novembre dernier.
Au Burkina Faso, le gouvernement annonce l'acquisition prochaine d'équipements militaires au profit de l'armée pour faire face à la menace terroriste. Selon le ministre de la Défense, les commandes sont d'ailleurs faites. Parallèlement, le gouvernement a entamé des négociations avec les terroristes à déposer les armes. Il a créé des comités locaux de dialogue, mais l'État rassure qu'il ne met rien sur la table pour ces négociations. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Trois membres du gouvernement, les ministres de la Défense, celui de la Réconciliation nationale et le porte-parole du gouvernement étaient à cette conférence de presse. Principale information, les ministres de la Défense annoncent un vaste plan d'équipement militaire pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée. Barthélémy Saint-Pauré, ministre de la Défense.
Depuis plusieurs semaines, je dirais même des mois, au niveau du ministère de la Défense, nous travaillons sur cela. Nous avons fait un travail d'évaluation. Donc sur la base d'une réflexion sur la densification du théâtre, sur la génération de nouvelles forces. Et donc nous avons un plan qui est tout à fait clair où l'ensemble des besoins capacitaires a été défini, soumis au gouvernement qui est à pied d'œuvre pour mobiliser les ressources financières pour financer ce plan d'équipement. Mais il faut dire qu'il y a depuis un certain temps, beaucoup de commandes sont déjà faites. et donc ils sont déjà en cours de livraison progressivement et nous pensons que très bientôt l'ensemble de ces équipements seront fournis selon donc les échéances, les capacités nécessaires aux forces seront réunies.
De son côté, le ministre de la Réconciliation nationale a fait savoir que des discussions sont en cours avec de présumés terroristes. Certains ont d'ailleurs commencé à déposer les armes, mais le ministre assure qu'il n'y a aucune contrepartie dans ces négociations. Hiro Boli, ministre de la Réconciliation nationale.
Comme on vous l'a annoncé au départ, nous ne sommes pas en train de négocier pour dire voilà ce que nous donnons, voilà ce que nous recevons, voilà ce que nous cédons. Nous demandons à des jeunes qui se sont engagés dans un cycle de violence et qui sont assez souvent dans l'impasse aujourd'hui, de revenir, de retrouver la paix et de travailler à retrouver un avenir plus serein pour eux-mêmes. Il n'y a pas à déposer quelque chose sur la table, nous ne négocions pas de façon particulière pour dire « donnez ceci et en contrepartie de ce que vous donnez, vous recevez telle ou telle chose ». Nous leur offrons la paix et un avenir beaucoup plus assuré que celui dans lequel ils s'étaient engagés.
Le gouvernement a aussi annoncé l'organisation prochaine d'un forum de la réconciliation nationale. Une réorganisation des forces est en cours dans le but de consolider le maillage territorial. La vision globale, selon le ministre de la Défense, c'est de densifier ce maillage et protéger les zones qui ne sont pas encore menacées. Le ministre de la Défense a demandé le soutien de tous les Burkinabés à rester mobilisés et à faire confiance à l'armée pour faire face à cette insécurité. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, apprendre tout en mendiant pour se nourrir est le quotidien des enfants talibés. Peuls pour la plupart, ils sont nombreux dont l'avenir reste incertain dans la région de Bounkani. Suivons ce reportage de Aïcha Diarra.
Les enfants qui sont chez nous à la maison, ce sont de nos enfants et puis les enfants des voisins. Ce sont des enfants qui vont tous à l'école. Maintenant, les jours, il n'y a pas école française, on apprend. Nos enfants sont là, on les nourrit comme il faut, on les habille comme il faut.
Idrissa Diallo réside au quartier Limamso de Bouna. Il est enseignant coranique depuis plus de 10 ans et en même temps commerçant. Tous les apprenants du Coran n'ont pas la chance qu'on ses élèves. Youssouf Ibrahim est un jeune talibé âgé d'environ 10 ans.
Il commence ce matin, il descend à 8h. Après 8h, maintenant, il vient au marché pour mendier. Le soir, il descend aussi. Après 16h, il revient encore au marché pour mendier. Côté de restauration aussi, c'est les gens qui les donnent, mais côté ses habits, c'est lui-même qui s'occupe. Et les jours aussi qu'il ne trouve pas à manger, il paye. Alors, ou ça, au contraire, il reste comme ça.
Ils sont nombreux, ces enfants qui vivent de la mendicité tout en rapportant un peu d'argent au maître coranique. Même si cette dernière partie n'est pas reconnue par bon nombre de maîtres coraniques comme Idrissa Diallo.
Bon, c'est une question très profonde. On doit réfléchir beaucoup. Il y a des gens qui font croire que ces enfants-là mendient pour aller donner à leur oustaz. Mais rarement les enfants qui mendient pour aller. En tout cas, ce que moi je connais.
Ces maîtres coraniques ont pour nom Modibo, qui est un mot arabe al-Mouaidib, c'est-à-dire éducateur. Pour la plupart, ils sont peuls dans la région du Bounkani, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Et leurs parents préfèrent leur apprendre le Coran plus que de l'école française. Pourtant, c'est un modèle qui a perdu tout son sens aujourd'hui, selon Moussa Diallo, secrétaire général des Peuls du Bounkani.
Donc, tu peux même voir l'enfant qui mendie du matin jusqu'au soir, c'est quel temps il prend pour étudier. Il y a certains marabouts même qui fixent des prix aux enfants.
Moussa Diallo a été lui-même talibé de 7 à 15 ans au Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire. Il y a été déporté par son père pour l'apprentissage du Coran. L'ex-talibé est aujourd'hui propriétaire d'une entreprise de lait qu'il gère avec sa petite famille. Une chose que tous les anciens talibés n'ont pas.
Et depuis son enfance, il mendiait seulement jusqu'à l'âge de 20 ans comme ça. Les jeunes, maintenant, il ne peut plus mendier. Donc si quelqu'un vient lui proposer quelque chose, surtout vient faire quelque chose, on va te donner temps pour l'amour de Dieu, pour faire lutte pour la religion. Un, il n'a pas eu le temps même pour étudier le Coran, laquelle il était envoyé. Deuxième des choses, il n'a pas appris autre métier. Il est grand, il est dans les besoins. Il va faire comment? Il va accepter tout ce qu'on lui demande de faire pour avoir l'argent. Souvent même, ça conduit les pures. Et je vois même les phénomènes terroristes, souvent ça facilite par là. Ce n'est pas la religion, ni les coutumes, ni une tradition pure. C'est une exploitation.
Le 12 juin 2021, le nord-est de la Côte d'Ivoire, dans la région région du Bunkani, plus précisément à Teini, une attaque terroriste a fait 3 morts et 4 blessés, ce qui fait du Bunkani une zone rouge. Aïcha Diara, de passage dans le Bunkani pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, à la présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur nos différentes plateformes digitales et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.